Le temps prend la radio, puis court dans les oreilles. Tu prends une pochette, puis tu en retires un disque. Les échos des rues t'appellent et tu t'y frottes pour oublier. That's the rock and roll suicide. T'es trop vieux pour oublier, trop jeune pour choisir. Et tu attends patiemment les questions. Tu marches le long des cafés, mais tu ne manges pas pour vivre plus longtemps. And more suicide. Et n'importe quel rythme te fera traverser le boulevard. Le jour s'arrête à la place de rentrer chez toi. Ne laisse pas le soleil s'effondrer. Ne le laisse pas non plus tourner l'esprit. Oh non, me laisse pas seul. Tu te regardes dans le miroir. Ta tête tourne et je ne sais pas comment t'aider. Oh non, t'es pas tout seul. Pas de problème, y'a Johnny Tupac qui est là. Et Helmut Schwarz aussi, dans The Rouge Fortune. Les couteaux vont te la serrer le cerveau. Je t'aiderai avec tes peines sur Jet FM.
Bergerus 10-43, aujourd'hui. Oui. Note sur la mémoire sans question. Car je le répète, j'étais content quand on avait trouvé ça, qu'il n'y avait plus de questions, il y avait plein de réponses, mais toutes les questions étaient parties. Pourquoi ? Parce qu'avec le téléphone portable, on a toutes les réponses dans notre poche et ça ne sert plus à rien de se poser des questions. Or, le téléphone portable donne des réponses, mais pas à toutes les questions. Les questions. Donc bref, j'étais sur mon fauteuil à bascule en fin de journée et pensais, alors apaisé d'une journée complète de réflexion, je pensais, je me basculais, je réfléchissais, j'étais apaisé, j'avais beaucoup travaillé et une récompense, j'avais mis un CD quand même, une récompense vient me complimenter et me récompenser. Par Check 'em and Down, par Burnside. Et à ce moment-là, quand j'écoutais ce morceau, qu'on va écouter là tout de suite après, je me disais que la télé empêche de vivre. Car avant d'aller, je vais vous dire pourquoi. Parce que si je dis que ça, bon, ça rentre dans l'oreille, ça sort par l'autre, quoi. Mais que la télé empêche de vivre, parce que tu te dis, quand tu fais rien, tu te dis, putain, je pourrais regarder la télé. Mais non, en fait. Enfin, après, c'est personnel. Chacun va mis à sa porte. Mais qu'est-ce qu'on est bien à rien faire dans son fauteuil, quoi. Oh. Allez, Check 'em and Down, Burnside.
Take it down.
Donc même chose, comme je vous dis, sublime, la sublime de Kant, la non-historicité de Nietzsche, le phénomène inouï de Balzac, le coup d'éclat, le truc absolument génial, le phénomène, voilà. Des livres d'occasion. Tu es dans une réflexion et là, bam, tu vas tomber sur un livre, tu sais pas d'où ça sort, mais ça va coller avec tes réflexions. Et donc là, je me baladais, j'étais dans une bouquinerie encore, et je regarde les bouquins, et là, je tombe sur La Force Majeure de Clément Rosset. Donc Clément Rosset, je connaissais. Bon, il est édité aux éditions de Minuit, donc c'est pas mal, quoi. Donc je l'ai acheté. Et l'autre que j'ai acheté, j'avais vu, pareil, un truc... je ne l'ai pas lu encore. Sur Kant, de Kant, aux éditions Vrin. Donc, waouh. Mais c'est pas... Donc ça, comme, et Kant, j'étais dedans, en fait. Je lisais Kant. Donc c'était bien. Donc, je vais continuer avec Kant. Et bien sûr, chez Rosset, il est question de Nietzsche. Donc, j'ai appelé le professeur Schmilbli pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Oui, c'est merveilleux. Je vous remercie, Johnny Tiefbeck. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, c'est très, très aimable à vous. Nietzsche, vous pensez à moi. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, note sur Nietzsche, selon moi... Alors, selon moi, ça ne vaut pas grand-chose... Mais n'ont pas beaucoup de valeur. À mes yeux, non, ça ne représente pas beaucoup. Je vous connaissais, oui, bien sûr. Qui sont. Ces notes de plusieurs dizaines de pages sont pourvues de l'esprit de comparaison, n'est-ce pas ? Et ça, vous savez bien que ce n'est pas ça. À savoir, quelle interprétation de Nietzsche, de mes souvenirs, il faut donner ? De quel philosophe français, européen, dont il est question dans ce petit essai. Et plus en demeure à être plus raisonnable, plus logique, plus compréhensif, plus empathique dans l'écriture de Friedrich Nietzsche. Eh bien, lequel est-ce ? Eh bien, il se permet de faire ça, il les compare. Bon. Rosset, Clément Rosset, se pose en juge, n'est-ce pas, devant des écrits critiques d'autres philosophes sur Nietzsche, n'est-ce pas ? Donc des critiques objectives et subjectives. N'est-ce pas, et Nietzsche lui-même étant, nous pourrions dire, bourreau des sociétés occidentales. Nous pourrions dire ça, mais c'est un philosophe. Friedrich Nietzsche, oui. Et, mais comment pouvons-nous appeler une personne, dans ce cas présent Friedrich Nietzsche, le signifier par une appellation, comme je viens de le faire, comme bourreau des cités occidentales ? Comment puis-je faire ça ? Eh bien, parce qu'il faut lui donner... Il faut le mettre dans un intercalaire, n'est-ce pas ? Donc, philosophe, c'est un intercalaire qui est tellement large qu'il y a plusieurs intercalaires pour le philosophe, donc c'est encore assez souhaitable pour chacun d'entre nous. Donc, on écrit sa voix, sa direction, son sens, sa logique. Nietzsche généralisait ses points de vue. Oui, c'est vrai. Il disait, bon, je pense ça de lui, donc c'est tout. Je généralise. N'est-ce pas ? Mais ce qui est intéressant, important même de remarquer par rapport à cette auteur, c'est que certains de ces fragments, de ces petits articles... marque une empathie universelle. Donc, j'ai ramené avec moi ce petit essai que j'avais acheté en 83 lors de sa sortie. La plupart des interprètes de Nietzsche, ce ne sont point des penseurs, mais leurs interprètes, n'est-ce pas ? Toujours mieux renseignés sur eux qu'ils ne l'étaient eux-mêmes, qui en réalité ne savent plus que dire de la sorte. Dissimulent bien mal leur perplexité, je vous en parle, par leur incorrigible cuisterie. Celle de Heidegger, sur laquelle je reviendrai, qui témoigne à mon sens d'une méconnaissance plus pernicieuse que toute forme d'ignorance. La première, qui date maintenant un peu, consiste à reconnaître que Nietzsche a pensé et écrit quelque chose, mais quelque chose de mauvais, de faux, d'incohérent, d'immoral et de dangereux. La seconde, plus récente, consiste à prétendre que Nietzsche n'a en quelque sorte jamais rien pensé ni écrit, mais qu'en cette lacune réside paradoxalement l'essentiel de sa force et de sa finesse. Bon, aujourd'hui, comme celui qui n'étant pas philosophe, l'est néanmoins et d'autant plus, car n'interprétant précisément rien, comme le disait Foucault au colloque Nietzsche de Royaumont, grand penseur car échouant justement à penser quoi que ce soit, comme l'a répété Klasowski en diverses occasions, qui écrit aussi une large biographie, un large essai du moins sur Friedrich Nietzsche. Mais que fait-il? J'avais lu cet essai et je me dis, mais si Friedrich Nietzsche apporte cette philosophie qui en elle n'en est pas une, elle n'existe pas, qui est permis d'être comparé entre les différents critiques de sa philosophie, en quoi tous ces litres d'encre qui ont recouvert l'historicité de Nietzsche, la période, l'histoire, la vie, l'existence, les pensées de Friedrich Nietzsche, pourquoi existent-elles? Pourquoi tous ces litres d'encre existent? Pauvre Clément Rosset. Qui êtes-vous, cher Clément Rosset, pour vous permettre d'écrire des choses ainsi? Vous, Johnny Tibet, vous avez repris des notes sur Kant dans une bargeuse qui est passée récemment. Et vous dites, par rapport à des poèmes, vous, qui avaient été édités, vous dites, mais ces éditions de poèmes, c'est l'égocentrique, l'égocentrisme pur et dur. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de ça, si ce n'est à choisir où nous voulons aller, le cas présent dans une certaine décadence. L'écriture, ce genre d'écriture, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi, mais bon. Semblable aseptisation du propos nietzschéen est manifeste aussi dans les textes qui lui ont consacré, par exemple, Bataille, Blanchot, Derrida, tout commentaire qui, s'ils n'en viennent pas à biffer purement et simplement le fait d'une pensée nietzschéenne, fût-ce pour en féliciter Nietzsche, en efface cependant l'originalité et la portée en assimilant ce que pense Nietzsche à ce qui les préoccupe eux-mêmes. Oui, donc Nietzsche, aux yeux de Rosset, de Clément Rosset, n'est-ce pas, en 83, est une référence à laquelle certains auteurs, comme lui, vont voir pour écrire quelque chose et se découvrir. Eh bien, soit, c'est merveilleux, mais qu'y a-t-il de plus à dire là-dessus? C'est ce que tout le monde fait avec tout le monde. Là, par exemple, Nietzsche. Donc, mais chacun peut le faire avec son voisin, avec qui que ce soit. Mais ce sont des comparaisons qui vont s'effectuer. Et c'est ça qui est bien dommage. Il n'y a pas de comparaison à effectuer. Non. Simplement, oui, bien soit. Progressons. Évoluons sans se comparer. Il y a une expression très bien connue en France, c'est « comparons ce qui est comparable ». Mais comment comparer l'immaturité à la sagesse? N'est-ce pas? Cependant, cette question fondamentale de la pensée nietzschéenne diffère des interrogations kantiennes, en ce qu'elle reçoit une réponse positive de l'expérience vécue immédiate, alors que les grandes questions de Kant ne reçoivent de réponse que par l'intercession d'une distinction métaphysique entre l'empirique et le transcendantal, le phénomène et le noumène. Mais vous l'avez bien dit récemment, cher Johnny Tubeck, à la fin de sa vie, Nietzsche, Kant, non, c'était pas trop ça, n'est-ce pas? Il n'avait pas trop Kant. Et là, il le redit sans le dire, quoi. Oui. L'autorité d'un autre monde, exactement, oui. Exactement. Nous voyons par Kant, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cet autre monde dont parle Kant, oui. Mais ces façons d'y parvenir, pas d'y parvenir, mais comment dire ça? C'est l'existence de cet autre monde, pour ces deux philosophes, diffère. Je sais pas. Pour eux, ces deux mondes sont différents. Alors que. Non, ils ne sont pas. Oui, ils sont différents d'accroche. Ils existent tous les deux pour les deux philosophes, bien sûr, mais ils sont différents. Ils sont pas configurés, peut-être, devrais-je dire, de la même façon. Nietzsche dit que la philosophie traditionnelle de Platon à Kant, encore une fois, a eu pour principal et permanent souci de se boucher les oreilles. Non qu'elle refusa, comme Ulysse, de se laisser charmer par le chant des sirènes, considéré comme évocation d'un monde utopique, d'une réalité illusoire et mensongère, mais tout au contraire, parce qu'elle ne voulait pas entendre parler du réel, qui est justement ce qu'évoque sans relâche le chant des sirènes. Donc la réalité sont les illusions. C'est le monde inverse, c'est l'inversion. Donc il y a des questions aussi avec Bourgeois, je me dis, ben, oui, une Bourgeois, c'est l'inversion, je crois, oui. Oui, exactement. Oui, c'est remarquable. Et pour finir, j'avais une autre. On a pu écouter Balade pour un cloporte de la bande originale Métamorphose pour un cloporte avec l'acteur français, c'est un film français, comment il s'appelle déjà? Oh, je sais plus. C'est des années, un grand acteur français de l'époque de Jean Gabin, là. Enfin après Jean Gabin. Mince, oh, je sais plus. Donc oui, je vais revenir parce que monsieur professeur Schmidbly, c'est par rapport à l'inversion. Je voulais vous poser une question par rapport à, vous l'avez évoqué là à l'instant. Nietzsche et l'inversion, selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter? Oui, alors oui, l'inversion pour Nietzsche, oui. C'est ce qui a vraiment, à mes yeux, encore une fois, complété la fin de sa vie, complété sa vie. C'est vrai. Mais bien que. L'inversion, dès le début, je peux me permettre, dès le début de sa carrière littéraire, philosophique, il était question d'une inversion des sens. Oui. naissance de la tragédie, naissance de l'inversion. Nous pourrions... pourrions penser ceci. Ensuite, l'inversion est bien sûr, pour Nietzsche, quelque chose d'omniprésent. En lui, il y a l'exemple que je vous donnais sur l'illusion, avec Rosset, cette inversion de toutes les valeurs. Qui en soi, qui est ramené dans la, sont des fragments posthumes qui sont ramenés dans la volonté de puissance par sa sœur, mais qu'il forme une extrapolation, un point culminant, n'est-ce pas, de une vision d'anticipation, de ce monde, du monde de l'illusion, du monde réel, de la réalité, de ce monde où, là, où vous m'avez invité pour parler, justement, de l'illusion, de l'inversion. Voilà, je pense, avec toutes ces critiques de Nietzsche, j'en suis moi-même un, si vous voulez. Mais il n'y a pas à imposer, non, on n'impose rien par l'écrit, mais influencer. Nietzsche, à mes yeux, est bien au-delà. Mais Nietzsche n'est qu'un exemple. Mais Nietzsche est assez puissant, j'en conviens. Mais pour se dépasser. Je suis désolé, je ne peux pas. Bon, d'accord, très bien. Merci beaucoup, professeur Schmidt. Je vous en prie, Jay.
The Russian Fortune, avec Helmut Schwartz. Le mercredi soir, la barge russe with Johnny Tivek, tous les jours 14h. Oh yeah, you got it? The blues will never die. Ils sont là. Oh yeah, they are.